L'affaire Dominique Aubry, mort suspecte d'une riche veuve. Ne pas se méprendre. Dans l'entourage des Aubry, on convient que Franck Renard Païen est tout sauf un inconnu, un arriviste. La rencontre remonte à la fin des années 80. Franck avait la vingtaine, garçon paumé, incertain quant à la direction à prendre, oppressé par l'insolente réussite de la dynastie familiale Renard Païen. Un père conseiller à la cour de cassation, promu directeur de la gendarmerie nationale, une mère médecin radiologue, un frère financier à Londres, une sœur avocate. Pour sa part, Franck double sa première, triple sa terminale, s'inscrit sans éclat à la Sorbonne, en droit, en histoire de l'art, en lettres, travaille sans lendemain comme serveur, vendeur de chaussures, employé chez Régine, boîte mythique rue de Ponthieu près des Champs-Élysées, où les clients espèrent apercevoir les grandes stars en vogue venues s'amuser. Ici, Franck baigne dans son élément. Il aime l'effervescence de la nuit, la fête, et finit naturellement par y croiser Jean et Dominique, les chefs de file en la matière. Comment résister? Les Aubry sont fantasques, généreux en diable, et s'appliquent à fuir les vieilles personnes de leur âge, avec lesquelles ils ne manquent jamais de s'emmerder. À l'inverse, Franck leur apparaît si jeune, si élégant. À l'aube et à la fermeture de chez Régine, les liens sont noués, et le couple prend le gamin sous son aile. Il devient l'homme à tout faire, assistant, chauffeur, aide à transporter des acquisitions, distribue des tracts publicitaires dans les boîtes à lettres des halls d'immeubles cossus. « Avec Jean Aubry, déclarera-t-il un jour, j'ai appris le mobilier 1930, les montres, le bleu clin. J'ai appris le goût des belles choses. » Jean et Dominique sont toujours présents aux côtés de Franck, que tout lui sourit ou que tout parte à volo, en bonne place à son mariage en septembre 2003, mais aussi à l'heure du divorce, à peine un mois après. Jean et Dominique sont prêts à accueillir leur petit protégé à bord de leur péniche. À trois, Franck, Jean et Dominique, ils forment une famille de cœur, excentrique mais authentique. Eux le considèrent comme un fils spirituel, lui comme des mentors, une grande sœur, un grand frère. Et puis les années ont passé, et puis 2005 a fait ses ravages, emportant coup sur coup Jean, Dominique, et Franck Renard Païen se retrouve maintenant bien seul dans le bureau du capitaine Colombie, entendu en qualité de témoin. Et pas des moindres. Il est non seulement le premier à avoir découvert le corps de Libellule, mais également le dernier à l'avoir vu de son vivant. La veille au soir, le 30 novembre, il dînait en sa compagnie, sur la péniche. À l'en croire, ils se sont quittés sans ombrage vers 21h30, prévoyant de déjeuner ensemble le lendemain. Plus troublant encore, tandis qu'une bonne majorité des proches du couple Aubry avaient parié, à 10 contre 1, que les 14 millions d'euros d'héritage se poseraient sur sa tête, le principal intéressé se montre d'une naïveté confondante, et Franck Renard Païen prétend avoir ignoré, jusqu'au décès de Dominique, son statut de légataire universel. Difficile de remettre en cause sa parole, ou du moins de prouver qu'il ment. Toutefois, les enquêteurs apprendront à rebours que Franck Renard Païen, tant bouleversé par le deuil, a tendance à omettre des détails. Volontairement ou non, c'est tout le problème. Les voisins de péniche, qui aiment visiblement regarder le monde derrière leur hublot, révèlent qu'en cette soirée du 30 novembre, Franck ne fut pas seul à emprunter la passerelle de la Martinique. Invité par la police à le reconnaître, il admet. Oui, un ami commun l'accompagnait à la table de Dominique. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné plus tôt lors de l'interrogatoire? Pour couvrir cet ami? Non, répond Franck, il n'y a pas songé, tout simplement. La question ne lui a pas été posée. Attardons-nous sur l'ami commun, le troisième mousquetaire. Olivier Eustache, 34 ans, une carrure plus imposante, des yeux bleus, une assurance certaine. Il vient de Meurthe-et-Moselle, d'un milieu plus modeste. Il se cherche professionnellement, initié dans les banques au recouvrement de contentieux, puis sur le bitume à la gestion d'une piste de karting, enfin à la rénovation immobilière. Il n'a rien en commun, hormis peut-être un divorce en 2003, avec les vies de Franck et Dominique. Pourtant, en juillet 2005, il se tombe dessus dans un club med à Kemer, en Turquie, et ne se quitte plus. Trio improbable, réuni le soir du 30 novembre à 19h chez Dominique. On grignote un bout de poulet, de la salade, un yaourt, On migre au salon, on ouvre une bouteille de vodka. La conversation porte sur les prochaines vacances d'hiver, concomitantes avec le premier anniversaire de la mort de Jacques. Dominique propose le Sénégal. Elle et son époux y avaient leurs habitudes. Les garçons ne sont pas emballés. Elle s'énerve un peu. Après tout, c'est elle qui paye. Ils se quittent vers 21h30, légèrement brouillés, modérément ivres. Olivier raccompagne Franck en voiture chez ses parents. Il papote en bas, décide in fine d'aller au Winston, un bar près des champs. Ils y retrouvent une amie et s'épanchent sur l'état de leur amie Dominique, dite Libellule, sur son anniversaire à elle dans 6 jours, partagent des idées pour lui changer les siennes. Une soirée chez Michou, par exemple. Aux grands mots, les grands remèdes. Au commissariat de Neuilly, Olivier Eustache confirme tout et va au-delà des espérances. Le testament à l'intention de Franck ? Oui, il était au courant, et étonnamment, il ne lui a pas vendu la mèche. Il fut également présent avec Dominique, au mois d'octobre, à l'étude notariale, aidant à la rédaction, légitimé par un dogue de droit poussiéreux. Olivier s'implique dans la gestion du patrimoine de Madame Aubry, qu'il avait entre-temps consulté au sujet de cette assurance-vie de 900 000 euros, toujours à l'intention de Franck. C'est l'homme à tout faire, décidément. Partie prenante d'une dernière aventure fiscale, une petite magouille, trois fois rien. En octobre 2005, Olivier a joué les prête-noms dans la transaction d'une œuvre d'art, récupéré un chèque de 90 000 euros, a rétrocédé à Dominique une fois les liquidités glanées. Dominique meurt un mois et demi plus tard, et Olivier Eustache récupère le chèque début janvier 2006. À ce stade, Jean-Pierre Colombi en sait assez pour forger sa conviction. Les noms de ces deux garçons reviennent beaucoup dans les affaires de la défunte, qui ne se serait, peut-être, pas passé toute seule la corde autour du cou. Il n'a pas de quoi le prouver. Cela viendra. Il suffit qu'on lui accorde 48 heures de garde à vue et il en est certain, il les fera plier. Plus frileux, le parquet de Nanterre et le bureau du procureur rechignent à suivre et l'enquête est finalement classée sans suite le 23 janvier 2006. Partie remise pour le capitaine qui consacre la manche suivante aux fontaines, à la mère et aux frères de Dominique qui ne croient pas non plus à son suicide, en tout cas pas à cette forme précise. Se jeter par-dessus bord, admettons, s'assommer de médicaments, sans doute. Se pendre à l'escalier, venant de quelqu'un qui, selon les dires flatteurs de sa famille, ne sait que trop rarement montrer d'une dextérité remarquable. Non, il n'y croit pas. Crainte fondée ou vile manigance, visant l'héritage rebondi par mégarde dans les poches de Franck Renard Païen, peu importe. Les Fontaines déposent leur plainte contre X pour homicide volontaire, se constituent partie civile, et provoquent, en date du 31 janvier 2006, l'ouverture d'une information judiciaire. Qui mieux que le 36 Quai des Orfèvres pour résoudre le mystère de la mort de Dominique Aubry ? Aussi prometteuse que soit cette affaire, la brigade criminelle parisienne part avec un cran de retard, privée d'une scène de crime fraîche et figée, d'un corps incinéré le 21 décembre dernier, quelques semaines avant. Les lignes téléphoniques de Franck Renard Païen et d'Olivier Eustache sont placées sur écoute. Les connaissances de la victime entendues en audition par la police. Lors de la rétrospective de l'année 2005, tous évoquent d'abord le lent déclin de Dominique, sa mort sociale. À la disparition de son époux, elle s'était peu à peu isolée, absente, agressive si présente. Elle coupe les liens jusqu'à vivre recluse, presque, tolérant exclusivement la compagnie de Franck, puis celle d'Olivier. En parallèle, d'autres témoins réfutent la version d'un suicide, invoquant la rencontre récente entre Dominique et un homme, Didier, représentant de commerce de 60 ans, qui vit Porte des Lilas. Un type simple, prime sautier, qui semble se foutre de Lautrec, des vases galés et des 14 millions. Il y avait encore de la vie à l'entendre, une issue de secours, une pente à remonter doucement. Les soupçons d'abus de faiblesse, de manipulation, d'assassinat ont beau encercler Franck et Olivier, rien ne vient engager une once de leur culpabilité. Les écoutes ennuient, les deux partagent essentiellement leur frustration, la lenteur de la procédure, le désir urgent de tourner la page. L'étude de la téléphonie, du bornage de leur téléphone portable dans la soirée du 30 novembre, est aussi contrariée. Pas un SMS, pas un appel reçu entre 20h22 et 23h15 ne permet de les localiser à un instant T, de confirmer ou non l'emploi du temps déclaré. Dans les relevés bancaires gelés, plus parlants, les officiers de police judiciaire constatent dans les deux cas un mauvais mélange de dettes accumulées et de maigres revenus, situation financière à laquelle Dominique ne peut plus pallier, elle qui avait l'habitude de dépanner financièrement Franck et Olivier. Raison de plus pour toucher au plus vite l'héritage, la fortune de Dominique. Moins d'une semaine après sa mort, on note que Franck avait déjà grignoté, avant la saisie de ses comptes, entre 100 et 200 000 euros de l'assurance-vie pour s'acheter une Porsche, un 4x4 et un scooter.